Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
On lui doit une trentaine de collections et de nombreux numéros de revues. Fondée en 1959, la maison des éditions Maspero avait été conçue comme une arme de guerre contre l'étroitesse d'esprit qui dominait les années 60. La France s'enfonçait alors dans la guerre d'Algérie. Chez Maspero paraissaient enfin et librement des livres révolutionnaires, des livres, donc des auteurs, qui luttaient ouvertement contre d'un côté le colonialisme et de l'autre le stalinisme qui étaient les deux superpuissances archaïsantes et stéréotypées de l'époque. Ainsi par exemple, François Maspero publiait-il Franz Fanon et en même temps Les chiens de garde de Paul Nizan. Il y eut bien sûr des représailles, des poursuites judiciaires et même des attentats contre l'éditeur libraire qui osait défier cette grande occupante qui la bêtise. Du coup, il persévéra. Il confia une collection à Louis Althusser qui fera connaître les textes de ses élèves, quelques brillants jeunes gens. Pierre Macheret, Étienne Balibar, Dominique Lecourt, Alain Badiou ou encore Jacques Rancière. Obligé par la censure et l'extrême droite de fermer boutique en 1968, il reprendra ses activités. Parmi les nombreuses collections fondées par François Maspero, figurait une belle édition de poche consacrée au récit des grands voyageurs et intitulée « La découverte ». Dans cette émission qui date de 1980, François Maspero parle avec Gilles Lapouge d'un de ses récits, celui du grand marin et explorateur français, Louis-Antoine de Bougainville.
Il y a quelques jours, j'en parlais ici avec M. Guy Barthélémy de l'Histoire du Jardin des Plantes. C'est un très très joli livre d'ailleurs. Et Guy Barthélémy évoquait dans cette Histoire du Jardin des Plantes cette génération assez étonnante de grands voyageurs, de grands explorateurs au XVIIIe siècle qui allaient dans le monde entier pour reconnaître toutes les formes du vivant et de la matière. Parmi ces grands explorateurs, il y en avait un qu'il citait, c'était Bougainville. Aujourd'hui, Bougainville se faufile de nouveau, mais alors en force aujourd'hui, puisqu'on va parler seulement de lui, dans Agora, grâce à François Maspero, grâce aux éditions François Maspero, qui publie le texte de Bougainville, Voyage autour du monde, par la frégate La Boudeuse et la Flûte l'Étoile. Il faut dire qu'avec un titre pareil, ça ne peut être qu'un livre ravissant, hein, de toute façon. Ce livre, il est donc publié chez François Maspero dans une petite collection de poche, ce qui est quand même important, qui s'appelle La Découverte. Et j'espère qu'on pourra dire un mot à la fin de l'émission sur cette collection La Découverte, parce qu'il y a maintenant une série de 20 titres à peu près, souvent éblouissants. François Maspero lui-même est venu ici pour parler de la collection, et puis surtout de Bougainville aujourd'hui. François Maspero, qui est le directeur de cette collection, qui je crois aussi est clandestinement, comme un passager clandestin un petit peu, puisqu'il s'agit de Marine, le préfacier, mais sous un nom de guerre. Et voilà, alors tout cela dit, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce personnage qu'est Bougainville, moi qui m'a fasciné par des tas de traits, mais surtout parce que du XVIIIe siècle, il me semble qu'il représente une espèce de cristallisation extraordinaire avec toutes les contradictions aussi d'ailleurs du XVIIIe siècle.
Oui, vous avez absolument raison. Enfin, moi je vois aussi les choses comme ça, c'est-à-dire que Bougainville est au milieu du XVIIIe siècle, un personnage qui incarne l'esprit de l'encyclopédie, l'esprit d'entreprise, tout ce qui va fonder en fait l'histoire de notre société dans les 100 années à venir.
C'est ça. Mais alors, au départ, bon, on le connaît comme un grand explorateur. Au départ, c'est pas ça du tout. Hein.
C'est pas un grand explorateur. C'est un homme multiple, mais dans ça, il est bien de son temps. Il s'appelle de Bougainville, mais en fait, c'est un fils de Mercier. Il faudra qu'il fasse sa carrière vite pour pouvoir affronter ensuite la réaction nobiliaire, parce que il aura des problèmes. Il a la chance d'avoir un oncle qui est ami d'une part de la Pompadour et d'autre part de D'Alembert. Bon, alors avec ces deux appuis un peu chacun de nature différente, il peut bien démarrer dans la vie, et dès l'âge de 22 ans, il publie un traité de calcul intégral pour servir de suite à l'analyse des infiniment petits de monsieur le marquis de l'hôpital. Bon. Et immédiatement après, deux ans plus tard, alors ça c'est le côté d'Alembert, et puis deux ans plus tard, côté peut-être plus Pompadour, il part pour le Canada comme officier dans l'armée.
Dans l'armée de terre, là. Hein.
Dans l'armée de terre, absolument. Il a des connaissances théoriques de mathématiques. Il n'a à l'époque aucune connaissance de navigation. Mais ça n'est pas un théoricien, c'est un homme pratique. Et immédiatement, dès son premier voyage, il demande au capitaine du bateau qui le transporte de lui apprendre les rudiments de la navigation. Et comme il fait deux allers-retours avec le Canada, ou trois, je ne sais plus, à chaque fois... Il se fait enseigner pendant la durée de la traversée les rudiments, et de moins en moins les rudiments, enfin de plus en plus la pratique de la navigation.
C'est ça. Alors après, il y a la perte du Canada, il est rapatrié, il est prisonnier.
Oui, il devient très vite un confident très proche de Montcalm. Il se sent très proche en fait des colons du Canada. Je crois que c'est une expérience très importante dans sa vie. Bon, c'est l'esprit d'entreprise des colons, leur attachement à la terre fait de lui quelqu'un qui est proche de ces gens qui sont les pieds noirs du Canada, ce qui fait que il se trouve immédiatement avoir affronté, ce qu'il aura à faire toute sa vie, la caste des officiers, des véritables officiers de cour, représentés par le gouverneur du Canada à l'époque, Vaudreuil. Mais par contre, il se sent très proche de Montcalm. Et bon, Montcalm meurt au champ d'Abraham, dans la bataille des champs d'Abraham. Il est fait prisonnier, lui, Bougainville, et il ressent la perte du Canada très profondément, humainement probablement parce qu'il se sentait proche du colon, et puis parce que ça représentait une entreprise qui pour lui était quelque chose de... à laquelle il tenait.
Alors, rapatrié en France, et puis il a l'idée... Alors là, il devient marin, hein, c'est à cette époque-là.
Il devient marin parce qu'alors cette perte du Canada, ça lui inspire une idée de colonisation, qui est... il dit, bon, on a perdu le Nord, on va gagner le Sud. Alors, il pense aux îles Malouines, ouais. Aujourd'hui Falkland,
qui sont au large de l'Argentine.
Il se dit, bon, ben, on a cherché le grand passage au nord du Saint-Laurent, d'ailleurs on ne l'a pas trouvé. Maintenant, il y a un passage au sud de l'Amérique, c'est le Cap Horn, et ben on va être là pour le contrôler. Bon. Et puis, alors, côté humanitaire, alibi ou pas, on va transplanter des colons du Canada au Falkland. Bon, alors évidemment, en face, il y a les Espagnols en Argentine. Ils prennent pas ça bien, et au bout de trois ans, la colonisation a commencé. Bon, il y a une négociation avec la cour de Madrid, et puis on lui dit, bon, ça peut pas durer. Il est forcé, en fait, de restituer. Parce qu'il avait fondé une compagnie privée, bien entendu, comme ça se fait à cette époque-là. Ça n'est pas une colonisation directe, ça se fait au nom de la couronne, mais enfin, c'est une compagnie privée. Donc, on le charge de rendre les îles de Malouines à la couronne d'Espagne. Et c'est à ce moment-là que, entre-temps, il a quand même fait deux voyages d'exploration des côtes de l'Argentine et du Cap Horn. Il a d'ailleurs rencontré dans un de ses voyages, au détour... d'un détroit interminable, Lord Byron, mmh. qui est un autre grand navigateur du tour du monde. Et il est allé lui proposer ses services parce que Lord Byron est en sablé. Et il se fait d'ailleurs poliment ou mal poliment reconduire. Lord Byron lui dit « Mêlez-vous de ce qui vous regarde ». C'est intéressant parce que 20 ans plus tard, il rencontrera Lord Byron face à face à la bataille des Saintes quand il est devenu, lui, Bougainville amiral. Bon.
Alors, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il a, au fond, sa grande idée, c'est-à-dire de faire ce voyage de découverte dont il expose très bien, très clairement, les buts à Choiseul, dans sa lettre à Choiseul.
Ah oui, c'est-à-dire que, finalement, l'intérêt pour un voyage de ce genre n'est pas évident à la cour à ce moment-là, et puis les crédits le sont encore moins. Ce qui fait qu'il faut qu'il convainque qu'il y a des intérêts, et il accumule les raisons, et elles sont un peu, c'est un peu de briquet de broc, c'est-à-dire bon,
aller
rendre un peu hétéroclite. Il faut rendre les îles Malouines, il faut aller explorer le Cap Horn, il faut se rendre compte s'il y a des comptoirs qui seraient intéressants à avoir dans le continent.
En face de la Chine.
Oui, parce qu'il y a la recherche du continent aussi, dont on se dit qu'il existe, le continent austral, oui. Dont on ne sait pas encore que c'est seulement l'Antarctique. Mmh. Bon, il y a le président Desbrosses qui a fait un grand traité pour expliquer qu'il doit exister un continent, de même que l'Afrique fait pendant à l'Europe, qui est l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, il doit exister au-dessous de l'Australie ou au-dessous de la Chine, quelque chose. Bon, et ça aussi, alors c'est un intérêt. Il y a intérêt à aller voir ce qu'il y a.
Il y a trouvé Muscadier.
Alors ça, c'est important. C'est le côté tout à fait pratique de Bougainville, ouais. C'est bien pour la couronne, mais aussi il a un ami qui est intendant. Il a un ami qui est intendant à l'île de France et il veut lui rapporter ça. Bon.
Oui. Et puis, alors, parmi les raisons, il y en a une encore plus rigolote, c'est qu'il faut vérifier si les Patagons sont si grands qu'on le dit.
Parce que c'est très important, parce qu'on est à la fin des mythes, on est à la fin des légendes, et on est en train on a dit d'étiqueter le monde, mais aussi d'essayer de voir jusqu'où ces limites peuvent être poussées. Bon. Et le gigantisme, on ne l'a trouvé nulle part, et il semble, d'après Lord Hanson, qu'il existe chez les Patagons. Alors, on va aller voir effectivement ça aussi.
Bien, alors le voilà donc qui s'embarque avec deux navires, la Boudeuse, sur laquelle on est très terriblement entassé. Il y a des textes que vous donnez dans votre préface qui sont impressionnants. 210 hommes sur un petit navire quand même. L'Étoile qui l'accompagne, qui est une flûte, mais une flûte ça veut dire que c'est un gros bateau, hein, bizarrement.
Oui, c'est un bateau de transport hollandais. Oui.
Bon, ils arrivent donc en Argentine, Montevideo. Alors peut-être si vous voulez bien, parce qu'on n'a pas quand même trop de temps, à moins que vous n'ayez quelque chose de spécial à dire sur... bon, il y a l'histoire des colonies, des jésuites, du Paraguay, non. Tout ça, c'est intéressant. Mais enfin, je crois que le plus intéressant, du point de vue encyclopédiste en particulier, du point de vue philosophique, c'est quand même Tahiti, non ?
Oui, ce qu'il faut dire, c'est...
Tout se pose là.
Ce qu'il faut dire, c'est que bon, son équipage, il l'a constitué aussi comme il a pu. C'est-à-dire, ça n'est pas un équipage de la marine royale réellement. Il a pris les deux, en fait, deux capitaines qu'il a rencontrés avant, avec qui il a navigué. Bon, et en fait, ce sont beaucoup plus eux, les navigateurs, que Bougainville. Bon, une équipe de savants qui est vraiment extrêmement réduite. Enfin, le seul qui dépasse un peu, ils sont quatre ou cinq, le seul qui dépasse un peu, c'est Commerçant, qui est un naturaliste, qui n'a jamais navigué, qui d'ailleurs ne reviendra pas en France, il mourra quelques années plus tard à l'île de France. Bon, c'est très, très réduit.
Il a
quatre musiciens, par contre. Ça, il y tient énormément. Et effectivement, ça marque le voyage. Ça marque un peu l'esprit du voyage. Mais ça n'est pas suffisant. Il n'a pas de peintre, par exemple, ce qui est aberrant. À une époque, on ne peut pas fixer l'image de ce qu'il rencontre. Bon, la cartographie qu'il fait est extrêmement primaire. Et comme il s'appuie sur une autre cartographie qui est très souvent falsifiée par les prédécesseurs, ça, il faut dire que lui ou ses deux capitaines ont une pratique formidable de navigation pour arriver à s'en tirer et à ne jamais se perdre de vue, en plus.
D'ailleurs, François Maspero, on dit souvent que Bougainville est un des premiers grands navigateurs français à avoir pensé à amener avec lui des savants ou un cartographe, justement, il n'y en a pas. C'est pas tout à fait vrai. Par exemple, Jean de Léry, c'était au 16e au Brésil, il était accompagné de TV, qui était un naturaliste et un cartographe tout à fait rudimentaire, mais enfin, c'était le 16e. Il y en avait quand même de temps en temps. Bon, alors, peut-être donc l'Argentine et l'Uruguay, on saute, si vous voulez bien, la Patagonie. Parce que moi, je trouve que Tahiti, c'est quand même une rencontre étonnante. Il faut peut-être préciser que Bougainville était dans la problématique du siècle, c'est-à-dire l'affaire de l'état de nature du bon sauvage ou pas, et il était violemment même, je crois, anti-rousseauiste.
Il était exaspéré par l'idéologie de Rousseau, et en même temps, il était extrêmement marqué. C'est-à-dire que sa première réaction, c'est toujours... Bon, il a connu, parce qu'il a connu les Indiens d'Amérique, et il n'a pas trouvé que c'était forcément des bons sauvages. Bon. Alors, il arrive à Tahiti, et sa première réaction, c'est de se dire qu'en fait, peut-être, ils existent. Et c'est la réaction de tout l'équipage, parce qu'on a les journaux des compagnons de Bougainville et ils sont éblouis. Ils sont éblouis, mais il faut bien dire aussi qu'ils restent 8 jours.
Oui.
Voyage, c'est pour 8 jours.
Là, ils n'en reviennent pas quand même. Il y a, dans votre préface, vous citez un texte d'un volontaire, c'est un des écrivains, je crois, Fesch, c'est un des chroniqueurs, qui était sur la Boudeuse, donc. Et il raconte ce qui se passe. Alors évidemment, c'est autour des femmes que tout ça se cristallise. Enfin, le paradis terrestre, c'est les femmes. Tous font des descriptions absolument extraordinaires, toujours avec un reflet de la mythologie grecque. C'est Vénus, Hélène, Hercule, etc.
Ils ont eu une mauvaise surprise après. C'est qu'ils ont eu pas mal de catsyphilis dans l'équipage. Oui. Et ils ont dit, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à évoquer le passage précédent des Anglais, de Wallis. Comme après Cook est passé, qu'il y a eu aussi des cas de syphilis dans l'équipage, Cook a dit c'est les Français.
C'est ça, ouais. Alors j'en reviens donc à Fesch qui raconte l'accueil des marins par toutes ces jeunes filles merveilleuses qu'ils n'avaient jamais vues au fond de Blin et qui s'offrent dans leur nudité. Alors il en cite une. Elle fit plus, elle s'étendit sur la natte, frappa sur la poitrine de celui qui était l'agresseur, évidemment l'agresseur gentil, lui faisant entendre qu'elle se donnait à lui, et écarta les deux obstacles qui empêchent l'entrée de ce temple où tant d'hommes sacrifient tous les jours. Il faut dire que c'est étonnant comme style. L'appel était bien engageant et l'athlète qui la caressait connaissait trop bien l'art de l'escrime pour ne pas la prendre sur le teint. Si la présence de 50 Indiens qui l'environnaient n'eût par un effet de nos préjugés, mis un frein à ses désirs violents. Il y a des textes absolument extraordinaires. Et bon, Bougainville aussi, il donne le même son de cloche au début. Puis alors, au-delà des femmes, il y a quand même la beauté du pays, il y a la richesse, la profusion de fruits, etc. Et puis, semble-t-il, enfin croit-il du moins, dit-il dans sa première version, la douceur des mœurs, l'amabilité des gens entre eux, l'absence de hiérarchie, etc. Comme une espèce de d'utopie, il le dit lui-même, avant la politique, enfin, avant le temps de la politique.
Oui, cela dit, c'est surtout sensible dans son journal, dans son premier journal de voyage, qui a fait, je dois le dire, l'objet d'une édition absolument extraordinaire de la part de M. Étienne Taillemitte, qui a fait un livre en deux volumes publié à l'Imprimerie nationale. Je fais une parenthèse là-dessus parce que ça vaut la peine, qui a édité le journal de Bougainville, c'est-à-dire son journal de bord et le journal les journaux de tous ces. De tous les gens qui ont navigué avec lui. C'est un livre absolument admirable. Et dans ce journal, on voit que Bougainville passe par-dessus ses préjugés anti-Rousseau et se retrouve très très séduit. Et puis, quand on lit alors son voyage rédigé deux ans plus tard, ça n'est plus pareil. Il est beaucoup plus réservé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant, il a ramené un bon sauvage qui s'appelle Aotourou. Et il a discuté avec lui sur le bateau et il s'est rendu compte tout d'un coup, ce qu'il n'avait pas vu en 8 jours, c'est qu'il y a des sacrifices humains, il y a toute une série de choses qui lui rappellent ce qu'il a connu par ailleurs.
Il y a des classes, d'une certaine manière, il y a des chefs, il y a des riches, il y a des pauvres, etc. Oui. Et ça, je trouve quand même, c'est très très émouvant de la part de Bougainville, c'est-à-dire qu'il change sans arrêt on lui démontre qu'il s'est trompé. Au départ, il ne croit pas à l'état de nature. À Tahiti, il y croit. Puis, quand il y a un informateur un peu sérieux, je veux dire, non, mais presque du point de vue ethnologique, c'est assez intéressant.
C'est un pragmatique, effectivement. Ouais. Il est très modelable. Oui.
Alors, il y a bien des histoires qui sont tout à fait charmantes. Il y a un côté tout à fait merveilleux pour moi, c'est un côté jeu un petit peu, parce que il passe dans tous ces archipels, il voit des îles et puis il baptise tout ça. On dirait vraiment Dieu le Père. Il dit voilà, on est passé devant une presqu'île, ça sera.
C'est bien là qu'on peut dire que c'est le début de la colonisation, c'est-à-dire c'est avec cette innocence vraie ou fausse et beaucoup de rouerie derrière. Bougainville représente bien ce qui va se passer après. C'est une prise de possession. Et si lui ne l'exprime pas, c'est déjà exprimé dans tout son comportement. Avec toute l'ambivalence, c'est-à-dire c'est une prise de possession au nom des Lumières. Hein. Et puis en même temps, Bougainville, lui, entrepreneur, il ne fait pas seulement baptiser. Il baptise les îles qu'il rencontre. Il voit ce qu'on peut en tirer. Et en fait, 20 ans plus tard, ça sera l'expédition de la Pérouse qui est née de celle de Bougainville, qui est à elle un but beaucoup plus directement colonisateur.
Oui, comme la colonisation d'Algérie, tout ce qui s'est passé est né de l'idéal de la Révolution française et les socialistes s'en réclamaient tout le temps. Enfin, le système était si bon qu'il fallait le donner à tout le monde. Mais il y a quand même, il me semble, une assez grande délicatesse, une assez grande intelligence de l'autre dans Bougainville. Par exemple, à un moment donné, il dit, quand il est dans l'époque de l'âge d'or, vraiment tout marche très bien, et puis il dit, j'ai quand même vu un vieillard, il était moins gai que les autres, celui-là, quand il nous a vu arriver, au lieu que les filles se précipitent sur les marins, lui, le vieillard, il était dans son coin, et il avait l'air pensif, un peu triste, peut-être parce qu'il sentait qu'il y aurait des malheurs parce qu'une nouvelle race arrivait chez lui.
Il y a effectivement cette extrême attention aux autres, mais qui est aussi limitée par finalement un scepticisme et qui prend la forme d'une politesse finalement. C'est la politesse du XVIIIe siècle et celle de la bourgeoisie qui va prendre le pouvoir finalement et qui ne sera pas toujours polie après.
Ah non,
mais au départ, c'est vrai, il y a cette attention, mais...
Et même quand il
voit
se
bien
justifie,
les limites.
Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, quand il se justifie, non, mais je trouve que c'est plus intéressant de voir justement que un homme comme lui, qui est poli, qui est manifestement un humaniste,
voilà,
un homme bon, est quand même son moment, par la classe à laquelle il appartenait, etc., est quand même dans cette direction de la colonisation.
Absolument. Oui.
Qui pervertit même un homme, je veux dire, de très bonne volonté.
Mais de toute manière, ce qu'il faut toujours rappeler avec lui, c'est que tout se fonde sur... Il est toujours forcé de financer pratiquement lui-même ce qu'il fait. Par exemple, ensuite, 2 ans plus tard, il renvoie le bon sauvage, il le renvoie dans son île. Alors, il monte toute une expédition, mais en fait, cette expédition qui rate d'ailleurs... Lui, il raconte que c'est pour envoyer à Outourou à Tahiti, mais en fait, c'est aussi pour rapporter des outils, des semences, et pour essayer d'implanter des rapports commerciaux avec les îles. Tout est toujours extrêmement lié, et c'est normal d'ailleurs, c'est l'esprit du temps.
Tout est lié, mais enfin, dans votre préface, vous notez aussi que, malgré cela, il y a tout un côté presque poétique dans cette aventure, par comparaison avec ce qui se passait du côté des Anglais.
Alors là,
qui, eux, c'était une manufacture, presque.
C'est franchement un amateur, effectivement. Dans le même temps, les départs des Anglais, ils sont réglés comme dans une gare. C'est-à-dire, tous les ans, tous les 2 ans, il part un nouveau navigateur autour du monde. Et puis, alors, avec de plus en plus une véritable équipe scientifique. Parce que Bougainville, lui, il a navigué comme tous les autres l'avaient fait avant lui. Il a navigué droit devant lui. Alors, il a fait une espèce d'exploration qui est d'un couloir, finalement. Ce qui est à gauche, ce qui est à droite du bateau. Et puis, ce qu'il y a devant. Bon.
Les autres ratissés,
Cook a commencé à ratisser, et c'est comme vous dites, c'est exact, c'est à ce moment-là, en fait, Cook, c'est l'exploration scientifique. Bougainville, c'est encore un amateur.
Mais c'est aussi une exploration colonialiste, quand même, Cook.
Ah, alors totalement.
Totalement.
Oui. Et puis Cook
brutal,
avait plus brutal, c'est-à-dire Cook est un grand spécialiste, par exemple, de la prise d'otages. Mm-hmm. Quand il débarque dans une île, il a pris comme technique de prendre immédiatement les gens qui lui semblent être les chefs et de les embarquer. Bon, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il finit par se faire tuer au bout d'un certain temps, parce que dans une prise d'otage ratée.
Un dernier très poétique du voyage de Bougainville, c'est quand on s'aperçoit un beau jour qu'il y a un marin qui était un marin particulièrement... Un marin, c'était un domestique.
Oui, c'est le domestique de Commerçon.
De Commerçon, oui, qui était très joli d'ailleurs, il était pas beaucoup de barbe, charmant, comme ça. On s'aperçoit que c'était une dame en réalité.
Oui, il était pas joli d'après ce que disent les autres.
Bon,
moi j'ai l'impression que c'était...
Bon,
tout le monde était au courant depuis le début, mais qu'il y avait un consensus comme ça, général.
Parce que dans les histoires des pirates, il y a souvent des femmes qui se déguisaient en pirates hommes pour pouvoir participer aux bagarres, et ça, on le savait pas toujours, on le savait parfois quand on les pendait seulement. Il y en a 2 au XVIIIe siècle en particulier, il y a Anne Reed et je ne sais qui, Bonnet, qui sont célèbres toutes les deux. Et elles faisaient le coup de feu et on croyait vraiment que c'était des vrais pirates. Écoutez, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je voudrais quand même, parce qu'on n'a plus que quelques minutes, peut-être que vous parliez alors de l'ensemble de cette collection, du projet de cette collection, et puis de ce que vous avez publié, enfin, qui vous fait plaisir.
Le projet de la collection, il s'exprime dans son titre, La Découverte. Il s'agit de publier les textes de gens qui, à toutes les époques, parce que je commence avec Hérodote finalement, ont affronté, découvert, dialogué avec, ou exterminé d'ailleurs, d'autres sociétés. Le regard des uns sur les autres. Je dis bien des uns sur les autres parce que ça peut être aussi bien dans l'autre sens. Moi, mon idée, ça serait c'est aussi de publier ce que les Persans ont vu de la société occidentale, par exemple au XVIIIe siècle, etc. Alors, il y a des textes.
Les textes aztèques aussi sur l'espagnol.
Alors voilà, c'est ça, oui. Alors j'ai commencé évidemment avec Christophe Colomb et immédiatement après avec Las Casas pour expliquer l'extermination qui a suivi la conquête, Bernal Diaz et Castillo et Cortés, les conquérants. Bernal Diaz et Castillo étant le point de vue finalement du soldat dans la conquête et pas du conquistador lui-même. Et puis les textes du XVIIIe siècle un texte admirable qui est le Tour de France de Flora Tristan au milieu du XIXe, le regard d'une femme rencontre la classe ouvrière naissante de ville en ville en France, mais qui d'ailleurs meurt au milieu de son voyage.
Et puis alors parmi les autres textes, moi ce que je retiens, bon, Stendhal évidemment, Promenade dans Rome, il y a Cook justement, les deux volumes de ses relations de voyage autour du monde, il y a Humboldt qui est un grand naturaliste aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a quelques autres, non, du 18e. Il y a Mercier, mais alors Mercier c'est une utopie.
Le tableau de Paris, au contraire, c'est la vie de Paris quotidienne, c'est voyage sous ses fenêtres, enfin c'est un tableau, c'est en fait Paris avant la Révolution française, et tout y est.
Il y a René Caillé, Voyage à Tombouctou, et c'est une collection qui est nouvelle, elle a un an, je crois que vous avez une vingtaine de titres, vous m'avez dit. Hein.
Oui.
Et elle marche bien?
Très bien.
Ouais. Et à quoi vous attribuez ça? Vous n'avez pas d'idée? C'est l'exotisme?
Je pense que c'est l'exotisme et peut-être les gens sont quelquefois déçus parce que c'est pas l'accent réel de la collection, mais je crois que c'est une curiosité et puis c'est quand même les fondements de notre société actuelle, tous ces regards entrecroisés.
Oui, et puis c'est peut-être en dessous des études scientifiques d'ethnologie aujourd'hui, la volonté de retrouver une espèce d'ethnologie primitive et presque sauvage, enfin naturelle comme ça, une parole fraîche. En tout cas, je rappelle donc que nous avons parlé du livre Voyage autour du monde par la frégate La Boudeuse et la Flûte de l'Étoile de Bougainville. C'est François Maspero qui en a parlé, François Maspero qui dirige la collection La Découverte chez Maspero.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 juillet 1980. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.
I've seen mountains, I've seen bridges, distant seas, uncharted beaches. I've seen light. From anywhere come porch. I've been warmed on tropic islands, lost in cities, sounds and silence. I've been found on many stories, heartbreaks and glories, the happiness and the strife, the tears and the laughter of a life. Lately I dreamed I had tasted all life's treasures, but still my heart fills me with pleasures. This life's an open I dreamed I had tasted all life's treasures, but still my heart fills me with pleasures. This life's an old